France Inter, le 7-9, intervenez.
Vos questions à Elisabeth Badinter, 01 45 24 7000 à elle qui présidera cette année le 43e jury du prix du livre Inter. Daniel est au standard, Daniel qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Daniel et bienvenue sur l'antenne.
Bonjour. Bonjour messieurs dames. Bonjour Madame Badinter.
Bonjour Madame.
Je suis tellement heureuse. J'étais très très contente ce matin quand j'ai entendu que vous étiez la présidente de ce jury. J'ai pas hurlé de joie, mais c'était presque ça. J'ai dit bonheur. Bonheur parce que c'est une femme extraordinaire. Pour moi, vous êtes une... J'ai dit tout de suite, vous êtes une sage avec un grand S comme cela, majuscule. J'ai pas de questions à vous poser. Je voudrais simplement vous dire que vous allez illuminer ma journée.
Non, mais écoutez, c'est vous qui illuminez la mienne aujourd'hui.
Oh, non, madame, parce que on entend tellement d'âneries en ce moment, veuillez m'excuser de ce joli mot, que vos paroles rares sont tellement importantes et je suis tellement contente que j'ai décidé d'écrire une lettre pour faire partie de... Enfin, essayer.
Une
faire...
En voici une, Eva Bétan. On a la première. Eva Bétan, vous écoute, attention. C'est, Daniel, c'est Eva Bétan qui va vous lire. Vous avez déjà l'oral avant l'écrit.
Une vraie lettre, hein, pas un CV, une vraie lettre. Hein, vous parlez, vous racontez.
Une vraie lettre. C'est,
et on
ça fait
vous lit.
Deux ans que j'ai fait.
Voilà.
Merci Daniel de nous avoir fait vivre votre enthousiasme ce matin depuis Bordeaux. Elisabeth Badinter, je vais vous poser la question à 1000 euros. C'est quoi un bon livre?
C'est un livre qu'on ne quitte plus. C'est un livre avec lequel... Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un livre, il y a eu plusieurs livres dans ma vie évidemment qui m'ont bouleversé. Mais le livre qui vous passionne tellement que vous le lisez même en voiture. Et que c'est-à-dire que... Quand vous êtes au feu rouge, vous avez votre livre ouvert, ça m'est arrivé deux fois dans la vie. C'est pas raisonnable, on est bien d'accord, on rate le feu vert, etc. Mais c'est des livres que vous ne pouvez pas quitter, ce sont des livres qui vous chamboulent. Ce sont des livres qui vous accompagnent, dont on se souvient toute sa vie. Et ça, c'est une expérience qu'aucun autre média, si j'ose dire, peut vous donner. Vous avez, c'est quelque chose, parce que votre imagination aussi apporte quelque chose à ce livre. Vous vous l'appropriez.
Mais vous citeriez un titre?
Oui, pour vous, c'était... Oui.
Bon, on veut les deux, surtout. Les
deux du feu rouge.
Alors,
ouais.
Le premier, c'est « Je dois tout à Michel Del Castillo ». Car j'avais à peu près 12-13 ans, il a publié un livre qui a changé ma vie. Et c'est à lui, je pense, que je dois d'être devenue une lectrice enragée.
Alors j'aime ce beaucoup
livre,
Michel
s'appelait
Tanguy.
Lequel. Oui. Voilà. Et jusque-là, j'étais piètre lectrice et je ne lisais que des romans policiers à deux sous qui n'étaient pas vraiment bons. Et lui, c'est lui qui m'a ouvert ce goût de la curiosité, le goût de la lecture. Je lui ai l'occasion de lui dire à quel point je le remerciais. Peut-être que sans ce livre, je n'aurais pas eu la même vie, au fond. Bon, le deuxième livre qui m'a beaucoup chamboulée, c'est un livre de Benoît de Groult qui s'appelait « Ainsi soit-elle ». Ça n'était pas un roman, c'était un essai, mais j'ai eu là aussi cette sensation que cette femme ouvrait des portes, que elle racontait exactement ce que je sentais, mais je ne pouvais pas bien expliquer. Bref, ce sont deux livres. Il y en a beaucoup d'autres qui m'ont passionnée, mais ces deux-là me viennent en premier, voilà.
Eva Bétan.
Oui, un mot pour Michel Del Castillo, c'est formidable parce que il est espagnol et il écrit en français. Et à partir de tout, il a fait un livre notamment magnifique, La tunique d'infamie, où il raconte comment une enfance terrible, en quelque sorte, a fait de lui l'homme qu'il est. Et c'est un auteur dont on parle moins et qui a écrit des choses magnifiques. Magnifique. Est-ce que Simone de Beauvoir a pas été importante dans votre vie, Le deuxième sexe? Est-ce que c'est pas le livre qui dit je peux être ce que je veux, je peux faire ce que je veux de ma vie?
Alors oui, c'est certainement. Alors.
Mais pas au point de le lire au feu rouge.
Mais pas au point de le lire au feu rouge. Ouais. Et il faut bien reconnaître que Simone de Beauvoir n'avait pas un génie littéraire et d'expression. C'est assez lourd, Le deuxième sexe. C'est emballant quant au fond, quant aux idées qu'elle développe. C'est la porte de prison qu'elle ouvre aux femmes d'une certaine façon. Donc effectivement, c'est un livre qui a énormément compté dans ma vie, comme vous. Je l'ai souvent dit d'ailleurs, mais ça n'est pas forcément un très bon écrivain, Beauvoir. Et donc, ça n'a pas suscité chez moi cette espèce de folle passion au point de ne plus pouvoir lâcher le livre, quoi. Voilà.
Vous parlez des femmes, Elisabeth Badinter. Est-ce qu'il y a une écriture, pour vous, féminine, aujourd'hui? Est-ce qu'on écrit différemment en fonction de son sexe?
Pas du tout. Pour moi, pas du tout. Mais peut-être aussi parce que je suis plus dans les essais que dans les romans, mais pour moi, pas du tout. Je considère qu'il y a une bonne et une mauvaise écriture.
Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que, comme on l'a dit, c'est un jury paritaire, 12 femmes, 12 hommes, mais pour une fois, la parité joue au détriment des femmes. Parce que 70% des lettres que nous recevons sont des lettres de femmes. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ce sont les femmes qui lisent plus ?
Je pense que c'est elles qui s'enrichissent le plus. Je pense que c'est elles qui trouvent, à travers la lecture, l'occasion de parfois combattre des préjugés, ne pas rester dans des stéréotypes acquis une fois pour toutes. Je pense que la lecture, c'est une ouverture sur le monde dont on ne peut pas se passer. Si les hommes lisent moins, laissez-moi vous dire qu'ils sont probablement un peu moins intelligents.
Bon.
C'est Bernard Guetta.
Non, écoutez tout de même.
Ah bah oui.
Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que quand on ne lit pas, on n'a pas cette occasion de réfléchir, on n'a pas non plus cette occasion de remettre en question des affections, des pensées, des idées, des raisonnements. Je pense que la lecture vous secoue.
Enfin, Elisabeth si Badinter, c'est une généralisation invraisemblable.
Non, mais
c'est du sexisme à rebours.
Mais pas du tout.
Mais je pose la question parce que c'est statistiquement intéressant. Il y a 70% des gens qui nous écrivent sont des femmes. Dans Tact, ça se voit chaque année. C'est un fait. Est-ce que c'est aussi parce que dans l'éducation, dans le rapport au monde...
Elisabeth Badinter, oui, pardon de trancher ce débat.
Je vois que Bernard Guetta est très en colère contre moi.
Non, pas en colère, mais si tu peux faire.
Je dis, si les hommes ne lisent pas autant que les femmes, il y a des chances qu'ils soient moins ouverts et moins intelligents que les...
Ah, c'est le résultat, c'est pas la raison.
Elisabeth Badinter, les femmes... Vous m'aviez bien compris, d'ailleurs.
Les femmes, vous leur consacrez plutôt à une femme, votre dernier livre, Marie-Thérèse d'Autriche, la mère de Marie-Antoinette. Vous dites que les femmes de pouvoir sont toujours suspectes. Suspectes de quoi exactement ?
Alors, suspectes de beaucoup de choses. Suspectes de ne pas être à la hauteur. Suspectes de ne pas être compétentes. Suspectes de ne pas avoir le caractère et la dureté qu'il faut pour gouverner. Enfin bref, suspectes de tout. Et donc, il y a quand même cette vieille idée contre laquelle les femmes luttent aujourd'hui, et je pense avec succès, mais il y a cette vieille idée qu'il y a une fragilité émotionnelle des femmes, qu'il y a peut-être moins de force de caractère, que peut-être, etc., moins d'expérience, moins de ceci. Voilà.
Il y a une femme aujourd'hui en France qui est en mesure, sinon d'accéder à l'Élysée, au moins de se qualifier pour le second tour, c'est Marine Le Pen. C'est une victoire du féminisme ?
C'est peut-être une victoire du féminisme, c'est pas une victoire pour la démocratie.
C'est pas la victoire dont vous rêviez ?
Et en tous les cas, vous me donnez l'occasion de dire que, de mon point de vue, on ne vote pas pour une femme parce que c'est une femme si on est une femme qui vote. On vote pour quelqu'un qui incarne vos idées ou vos intérêts ou vos préférences. Mais en aucun cas, on l'a vu avec Hillary Clinton, c'est pas parce que vous êtes une femme que les femmes vont se précipiter pour voter pour Madame Le Pen. Je ne crois pas.
La France, aujourd'hui, est prête à être dirigée par des femmes ? Où on reste encore un pays macho, où les députés sifflent une députée lorsqu'elle arrive
en robe,
je pense à Cécile
Duflot. Alors oui, je pense que les députés et les hommes qui représentent les autres sont beaucoup plus machos, à mon avis, que l'ensemble de la population. Mais il est vrai, ce que beaucoup de collègues étrangers me font remarquer, c'est que des scènes comme celles qu'on peut voir à l'Assemblée nationale, cette fameuse scène où on envoie des lazzi à Madame Duflot parce qu'elle est en robe et montre l'imbécilité profonde, le machisme imbécile, infantile d'une partie de la classe politique masculine. N'en déplaise à Monsieur Guetta.
Pour ça ne me déplaît pas du tout.
Le principal combat aujourd'hui pour les femmes, Elisabeth Badinter, il se joue où ? À l'Assemblée nationale, à la maison, au travail ? Partout ?
Il se joue partout, mais je pense que... Je vais donner deux pôles où ça se joue en ce moment pour des raisons différentes. Je pense que une grande partie de l'explication de l'inégalité des salaires vient du non-partage des tâches à la maison. C'est le combat le plus difficile parce que vous ne pouvez pas instaurer des lois pour dire tu feras ça, je ferai ci. Donc c'est un combat personnel, intime, particulier. On peut pas tout le temps être dans le rappel, tu dois faire ci, etc. Donc c'est un combat difficile, mais qui, à mon avis, est une source primordiale, essentielle de l'écart des salaires. Et puis, il y a un autre combat en ce moment pour les femmes, qui est plus particulier, qui ne concerne pas toutes les femmes. C'est, comme je le disais tout à l'heure, le combat des femmes de banlieue qui veulent être traitées comme des Françaises comme les autres. Voilà. Et qui veulent bénéficier de toutes les lois de la République. C'est un combat majeur qui se joue, même s'il est minoritaire en nombre et concerne moins de femmes, effectivement, que le problème de l'écart des salaires.
Ce combat pour la laïcité, il est brandi, pardon d'en revenir toujours au même parti, par le Front National aujourd'hui.
Mais je le déplore, monsieur. Oui. Et je pense que j'ai été parmi les premières à dire attention, ne laissez pas ce combat à l'extrême droite.
La gauche a perdu le combat, elle l'a laissé.
Je rappelle quand même qu'il y avait une personne qui a été un grand défenseur de la laïcité, c'est Manuel Valls. Et j'en ai fait moi-même l'expérience au moment de l'affaire de la crèche Babylou, où il m'a beaucoup aidé. Et donc, il y avait l'extrême droite, il y a l'extrême droite, c'est certain. Et c'est là où notre combat est si difficile, c'est qu'il n'y ait pas question d'aider et d'apporter des voix à l'extrême droite. Mais d'un autre côté, je considère que si la gauche ne s'est pas plus emparée de ce sujet, il a laissé le sujet à l'extrême droite, et de cela, je lui en veux.
Je voudrais il nous reste un peu plus de 3 minutes, Eva Bétan, qu'on reparle du prix du livre Inter, si vous voulez bien. Peut-être commençons par rappeler comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui. On a une présidente, ça y est, elle est là. Tout va bien, il nous faut un jury maintenant.
Il nous faut un jury, vous allez nous écrire. Si vous êtes en vacances, tant mieux. C'est pas un devoir de vacances, c'est un plaisir. Vous allez profiter des vacances. Vous n'avez même pas besoin de chercher l'enveloppe et le timbre, puisque vous pouvez le faire aussi par Internet. Donc vous allez sur franceinter.fr, puis vous serez guidé. Et vous verrez, il y a un formulaire. Donc il faut vraiment écrire, hein, pas mettre 3 mots, ça sert à rien.
C'est une lettre de motivation.
Une
déclaration d'amour.
C'est une vraie lettre, quoi. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un en face, il lit la lettre. Et nous, quand on les lit, on sent la personne, je vois pas d'autres mots, on voit son rapport au livre, son rapport à la vie. Et on discute des lettres. Tous les lecteurs de lettres se réunissent pendant toute une journée après avoir fait une présélection. Disons que j'ai lu l'Alsace, je présélectionne 5 lettres. Mmh. Vous avez lu la Lorraine. Hein. Et puis, on lit les lettres à haute voix et on discute. On dit, mais tu vois ce qu'elle a dit, c'est intéressant là, etc. Donc, c'est à partir de ces lettres, on se fait aussi notre roman et on vous imagine. Et puis un jour, vous arrivez, vous avez été juré chic. C'est plus dur de réussir qu'Alena, mais une fois qu'on a réussi, c'est formidable. Et puis, vous avez tout le pouvoir. Nous, par exemple, France Inter, on ne vote pas, on ne dit pas un mot.
Aucun journaliste ne vote. Hein, le jury sont les auditeurs et Madame Badinter.
Moi, je suis petite main à côté, c'est juste pour le règlement. Voilà, je rappelle le règlement. C'est formidable. Franchement, il n'y a pas mieux.
Ça, c'était pour la transparence voilà, niveau jury, la transparence de la sélection. C'est un peu le mot du jour, décidément.
Alors, oui, je demande à l'an dernier à 54 critiques qui ont voté de toute la presse, écrite, télé, certains organes sur Internet, etc. Ils m'envoient leur liste de leurs 10 livres préférés, des romans écrits en français, pas de traduction et qui n'ont pas obtenu de grand prix. Ils ne se concertent pas entre eux, ils ne se connaissent pas. Et moi, je fais des bâtons. C'est un exercice extrêmement intelligent. Et à l'arrivée, il y a...
C'est gratifiant pour vous, Eva.
Je fais une liste quand même, j'ai droit à une liste. Et à l'arrivée, il y a 10 titres qui ressortent. Voilà. C'est simple comme bonjour et ça donne en général des belles... Parce qu'en plus, je ne donne pas les noms des journalistes de chaque organe, donc personne ne va les appeler. Je sais que tu fais partie de... Non, on leur fiche la paix, c'est vraiment leur exercice. Ils font ça par plaisir, ils n'y gagnent rien, c'est juste par plaisir. Tout est fait gratuitement et par plaisir. Et tout ça pour que vous ayez le pouvoir. Franchement, de quoi se plaint-on ?
Voilà, tout ce joli monde se retrouve en conclave le dimanche 4 juin prochain.
Et on l'annonce à l'antenne.
On ferme la porte.
Et on ferme la porte et personne n'a le droit d'y assister.
Elisabeth Badinter, le mot de la fin
Le mot de la fin, je me réjouis de connaître cette expérience, je me réjouis de lire les 10 livres qui vont nous être proposés et de vivre cette expérience unique dans la vie, puisqu'on ne peut le faire qu'une fois et qu'apparemment les présidents de jury précédents auraient bien aimé en faire souvent une deuxième fois.
Et on rappelle quelques-uns des présidents de jury auxquels Elisabeth Badinter succède aujourd'hui.
Moi, je veux être président de tous les ans. C'est par Agnès de Sarthe qui était. Elle avait eu le prix du livre Inter et puis elle s'est retrouvée présidente. Mm-hmm. Ça a été aussi le cas de Pénac aussi, qui a été primé, qui a été président ensuite. Il y a eu Olivier Rollin comme président. Il y a eu Jean-Christophe Ruffin, Agnès de Sarthe, Geneviève Brisac, Le Clésio. C'est la seule fois qu'il a présidé de sa vie. Et avec la douceur de Le Clésio, il me disait : vous pensez que ça se passe bien, Eva ? Oui, Jean-Marie, c'est formidable. Et Leschnoz aussi, qui est quelqu'un de réservé, de timide et qui a été magnifique. Voilà, c'est des très jolis moments.
Merci.
Ce sont des très jolis moments parlant français.
Bravo jusqu'au bout. Bravo Eva Bétan. Dans un instant, la dernière question d'Augustin Trapenard et Alex Vizorek juste après ça.